Je suis dans le chapitre 4 de Marc. Jésus a donné la parabole du semeur à la foule et l'a expliquée à ses disciples. J'avais dit que cette histoire avait plusieurs niveaux que je comparais aux babouchka, les poupées russes qui s'emboîtent les unes aux autres. La première était le semeur. La deuxième, qui est à l'intérieur de la première, c'est la semence qui est mue d'une puissance extraordinaire, car il faut que le diable vienne en personne et l'enlève du chemin où elle pousserait même dans ce sol ingrat. J'avais dit que cette histoire avait plusieurs niveaux que je comparais aux babouchka, les poupées russes qui s'emboîtent les unes aux autres. La première était le semeur. La deuxième, qui est à l'intérieur de la première, c'est la semence qui est mue d'une puissance extraordinaire, car il faut que le diable vienne en personne et l'enlève du chemin où elle pousserait même dans ce sol ingrat. Cette parole, lorsque l'on consent à l'écouter, ne peut nous laisser indifférents. Telle est sa puissance de vie qu'elle va lever au beau milieu des pierres, en plein dans les épines et même en bord de route. Certes, sa vie sera de courte durée, mais elle va lever quand même. La troisième poupée ou couche, c'est le cœur de l'homme. La parabole du semeur ne nous parle pas vraiment de Dieu ni de sa parole, mais de l'état intérieur des auditeurs. Mais attention, cette parabole n'est pas un moyen de catégoriser, d'étiqueter les autres, de les placer dans une petite boîte. Il n'existe pas arbitrairement quatre sortes de personnes figées dans un état ou dans un autre. Mais chacun d'entre nous, à un moment donné de sa vie, est représenté par l'un ou l'autre de ces terrains. Ainsi, je peux être aussi dur que le chemin, indifférent aux réalités spirituelles ou distrait ou trop occupé à me faire une place au soleil, ou encore en souci à cause de toutes sortes de choses. La question essentielle est celle-ci. Est-ce que je veux être une bonne terre et comment la devenir? Le mot traduit par « bonne » veut en fait dire « intellectuellement honnête ». C'est aussi le mot qui en français a donné « calligraphie », c'est-à-dire la belle écriture. En conclusion, annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est comme semer dans diverses sortes de terrains. Lors de la première venue de Jésus et aujourd'hui encore, le royaume est en grande partie voilé devant l'opposition satanique et l'incrédulité des hommes. Mais malgré cela, le règne de Dieu s'implante chez ceux qui acceptent le message de Jésus et son règne se manifeste par une fécondité spirituelle. Mais lors de la seconde venue de Jésus, le royaume de Dieu sera publiquement établi sur terre dans une gloire non encore révélée. Il y aura alors une abondante récolte. La parabole décrit donc le royaume de Dieu de deux manières différentes. D'abord, il est présent dans le monde, mais voilé. Ensuite, dans l'avenir, il sera glorieux. Marc enchaîne tout de suite avec la parabole suivante. Je lis. Il leur dit aussi, « Est-ce qu'on apporte une lampe pour la mettre sous une mesure à grain ou sous un lit? N'est-ce pas plutôt pour la mettre sur un pied de lampe? Tout ce qui est caché doit être mis en lumière. Tout ce qui est secret doit paraître au grand jour. Si quelqu'un a des oreilles, pour entendre, qu'il entende. » Versets 21 à 23. Dans cette parabole, Jésus fait remarquer, ce qui est évident en soi, qu'on n'allumait pas une lampe, une mèche qui trempait dans un bol d'argile peu profond rempli d'huile, pour la cacher ensuite. On la plaçait plutôt sur un chandelier où elle pouvait éclairer. Jésus rappelle que son but n'est pas de cacher, mais de révéler les mystères du royaume. Il est aussi la lampe qui brille afin que tous profitent de sa lumière. Le plan de Dieu, qui jusque-là était caché, est en train d'être révélé aux yeux de tous, même si peu réalisent que c'est Jésus qui en est la révélation. Il dit deux choses à tous ceux qui veulent bien l'écouter. D'une part, prenez garde à ce que vous entendez. L'Évangile, selon Luc, dit « à la manière dont vous écoutez ». Et deuxièmement, prêtez attention à ce que je dis, car cela est de la plus haute importance. Le privilège que vous avez de participer à l'éclairage que je donne implique une responsabilité. Celui qui écoute est tenu d'agir, de prendre une décision vis-à-vis de moi. Les deux recommandations sont vitales. Nos oreilles doivent être sourdes aux mauvais conseils, mais nous devons écouter attentivement, sincèrement et avec dévotion la parole du Seigneur. Je continue à lire la suite qui se compose de paroles quelque peu énigmatiques. Jésus ajouta, « Faites bien attention à ce que vous entendez. On vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer et on y ajoutera. Car à celui qui a, on donnera encore, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Versets 24 à 25. C'est-à-dire que Dieu sera plein d'attention à l'égard de ceux qui auront été attentifs au message du royaume. Si quelqu'un accepte sa proclamation, le Seigneur lui donne dès maintenant l'occasion de participer à son royaume et y ajoutera des bénédictions par la suite, lorsque le Messie viendra pour régner dans toute sa gloire. Mais si quelqu'un aujourd'hui rejette sa parole, il subira une perte complète, car même l'occasion d'avoir part au royaume lui sera retirée. Ces gens qui suivaient Jésus pour être guéris ou parce qu'ils aimaient l'écouter, étant fascinés par ses paroles à cause de son autorité, n'avaient pas vraiment la foi. C'était pour eux comme regarder un film à la télé ou une pièce de théâtre. Ça les distrayait. Tant que je n'agis pas suite à ce que j'ai compris des paroles du Christ, je suis un auditeur fantaisiste, un touriste et un badaud sans plus. Je peux par exemple acheter un billet de train et croire dur comme fer qu'il va m'emmener là où je veux aller. Mais si je ne monte pas dans le wagon, je ne vais aller nulle part. Ma foi est incomplète et donc inutile. Je continue avec la parabole suivante. Il dit aussi, « Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui a répandu de la semence dans son champ. À présent, qu'il dorme ou qu'il veille, la nuit comme le jour, le grain germe et la plante grandit sans qu'il s'en préoccupe. D'elle-même, la terre fait pousser le blé, d'abord la tige, puis l'épi vert et enfin les grains de blé remplissant cet épi. » Versets 26 à 28. Cette parabole d'action n'est rapportée que par Marc. Elle souligne le mystère de la croissance de la plante qui est en germe dans le grain et éventuellement sera prête pour la moisson. Même aujourd'hui, on ne sait pas comment une semence se développe en une plante qui donnera une fleur puis un fruit. Ainsi, un petit gland a le potentiel de produire éventuellement un immense chêne qui deviendra peut-être centenaire. Marc décrit le développement de cette plante à grands traits de plume et en trois phases. Tout va très vite. On croirait voir un film à vitesse accélérée. À la première étape, le semeur jette de la semence en terre. Lors de la deuxième, cet homme est toujours présent mais inactif et sans se faire le moindre souci pour la semence qui germe et croît sans qu'il sache comment. La terre fait tout d'elle-même. Littéralement, il est écrit « automatiquement, la terre fait pousser le blé. » Tout se fait donc tout seul, sans cause visible et sans intervention extérieure, laissant sous-entendre l'action du Créateur. Il œuvre dans la semence, porteuse de vie, qui, lorsque semée dans la bonne terre, croît petit à petit et produit du grain sans aucunement la participation de l'homme. Ainsi, le printemps est l'occasion d'une profusion de vie, rythmée par le cours des saisons, c'est-à-dire les rotations de la planète et donc les grands mouvements sidéraux. Ça va chercher loin, comme on dit. Ce brin de muguet que je cueille le 1er mai est un des produits finis de l'immense horloge astrale. Un dynamisme extraordinaire est à l'œuvre dans la nature. Si toute cette énergie était déployée d'un seul coup, l'explosion qui en résulterait ferait ressembler une bombe atomique à un vulgaire pétard. Le royaume de Dieu, bien que modeste, contient aussi en lui-même cette puissance qui lui permet de grandir naturellement et en temps voulu. Maintenant, ce qui intéresse surtout un semeur, c'est la troisième étape, celle de la moisson. Je continue le texte. Et lorsque le grain est prêt à être cueilli, l'homme y porte aussitôt la faucille, car la moisson est prête. Verset 29. L'accent de cette parabole porte sur la croissance sous l'initiative de Dieu pendant l'étape intérimaire entre, d'une part, la proclamation par Jésus, l'humble semeur, ainsi que ses disciples, et d'autre part, la manifestation finale du royaume à la fin des temps, par Jésus, le puissant moissonneur. Cette image étant presque toujours associée au jugement dernier. Cette parabole a également une application directe pour ceux qui sont engagés dans le travail de Dieu, qui est de faire connaître la personne du Christ autour d'eux. Ils sèment la bonne nouvelle, ils attendent que Dieu intervienne. La croissance se fera selon un ordre défini, comme dans la nature. D'abord le brin, puis l'épi, puis le grain dans l'épi. Tant que le développement n'est pas complet, la moisson n'aura pas lieu. Je continue avec la prochaine parabole. Il continua en disant « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ? Par quelle parabole pourrions-nous le présenter ? Il en est de lui comme d'une graine de moutarde. Lorsqu'on la sème dans la terre, c'est la plus petite des semences du monde. Mais une fois semée, elle pousse et devient plus grande que toutes les plantes du potager. Il y monte des branches si grandes que les oiseaux du ciel peuvent nicher à son ombre. » Versets 30 à 32. Cette histoire comporte une longue introduction renfermant une double question et énonçant essentiellement que l'émergence, l'apparition du royaume de Dieu, est semblable à ce qui arrive à un grain de sénévé, la plante qui donne la moutarde, une fois qu'il est semé en terre. La petite dimension de cette graine était proverbiale car effectivement, elle était la plus minuscule des semences utilisées à l'époque du Nouveau Testament en Palestine. Il faut environ 750 graines pour faire un gramme, c'est dire sa taille insignifiante. Pourtant, en l'espace de quelques semaines, la plante peut atteindre une hauteur allant jusqu'à 3,50 m. Les oiseaux sont attirés par ses graines et par son ombre. Le but de la parabole est de souligner le contraste entre la plus petite des graines devenant le plus grand des arbustes. Ainsi, le royaume de Dieu a commencé en la personne du Christ et a pris une ampleur considérable. Cependant, dans son ensemble, le christianisme d'aujourd'hui n'est plus vraiment conforme à l'enseignement et au message originel du Christ. Ce qu'on appelle vulgairement la chrétienté consiste en de grandes organisations d'États, d'églises de tous bords, et d'immenses programmes, des bons certes, mais beaucoup de mauvais. Cette confusion est à mon avis voulue par l'ennemi de Dieu et des hommes afin de décourager Monsieur Tout-le-Monde à chercher la vérité. Tous ces oiseaux dont il est question dans cette parabole, comme dans les textes sacrés en général, n'augurent rien de bon. Ils représentent ceux qui profitent de la religion chrétienne d'une manière non conforme au plan de Dieu. Je continue le texte. Pas beaucoup de paraboles de ce genre, il enseignait la parole de Dieu à ses auditeurs en s'adaptant à ce qu'ils pouvaient comprendre. Il ne leur parlait pas sans se servir de paraboles, et lorsqu'il était seul avec ses disciples, il leur expliquait tout. Versets 33 à 34. Ce passage résume l'approche de l'enseignement du Christ en paraboles. Il s'adaptait à ses auditeurs en employant un langage imagé qui leur était familier. Cependant, Jésus avait une double approche. La première était pour le grand public, et la seconde, plus approfondie et détaillée, était réservée à ses disciples auxquels il expliquait tout ce qui, dans sa mission, avait rapport au royaume de Dieu. Les rabbins, les enseignants juifs, utilisaient quelquefois des paraboles pour illustrer tel ou tel point de leur prédication. Mais Jésus en a fait un usage plus systématique pour transmettre la bonne nouvelle du royaume. C'est ainsi que s'achève ce premier bloc de l'enseignement du Christ dans l'évangile de Marc. Trois des paraboles que j'ai couvertes proviennent du domaine agricole et décrivent la croissance d'une plante. Celle du semeur met l'emphase sur les différents types de sols qui reçoivent la semence, tels qu'on les rencontre couramment en Palestine. Dans un seul cas, la graine se développe correctement. Au sein du peuple qui écoute, une division va inévitablement se faire. Alors que tous devraient saisir ce que Jésus révèle, Seuls certains écoutent vraiment et veulent comprendre. Ce sont eux la bonne terre. Le commencement du royaume de Dieu en la personne du Christ est des plus modestes. Il ne s'impose pas par une prise du pouvoir, un coup d'État, ni par une victoire militaire, et ne possède aucune splendeur. Cependant, et petit à petit, le royaume gagne du terrain, même si en cours de route il va y avoir des corruptions qui provoqueront des monstruosités, comme les croisades ou l'Inquisition, par exemple. Lors de la moisson finale, ce qu'on appelle le jugement dernier, le royaume de Dieu pur triomphera au-dessus de tous les autres de la terre. Après son choix de parabole, Marc, l'auteur, présente une série de prodiges, indiquant par là que les œuvres que Jésus a faites établissaient la véracité des paroles qu'il a dites. Les deux, que ce soit ce que Jésus fait ou ce qu'il enseigne, ont trait à la présence de Dieu en lui. La section qui va suivre comprend donc quatre miracles qui montrent clairement l'autorité souveraine de Jésus sur diverses puissances hostiles. Une tempête en mer, une possession démoniaque, une maladie physique incurable et, quatrièmement, la mort. À quelques exceptions près, Jésus a fait la plupart des miracles au début de son ministère parce qu'il voulait que ses disciples le reconnaissent ouvertement comme Messie et Fils de Dieu avant de leur annoncer sa mort et sa résurrection. Je continue maintenant le texte de Marc. Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples « Passons de l'autre côté du lac. » Ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac dans la barque où il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Or, voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre la barque qui se remplissait d'eau. Versets 35 à 37. Les détails frappants indiquent que Marc rapporte le récit d'un témoin oculaire, sans aucun doute l'apôtre Pierre. C'est le soir de ce même jour d'enseignement que Jésus prend l'initiative et décide de se rendre sur l'autre bord du lac de Galilée avec ses disciples. Il désirait certainement être à l'écart des foules afin de se reposer. Les apôtres, dont certains étaient des pêcheurs expérimentés, prirent en charge le voyage. Jésus est dans la même barque que celle d'où il a enseigné. Elle fait en somme le lien, la transition entre les paraboles et les miracles. Au début, la traversée est paisible. Mais elle est soudainement interrompue par un grand tourbillon commun sur ce lac entouré de hautes collines et d'étroites vallées qui donnent lieu à de forts courants d'air qui balayent ses eaux. Le soir, les tempêtes étaient particulièrement dangereuses et à cette occasion, les flots tumultueux continuaient à se déverser avec furie dans la barque qui, évidemment, commençait à se remplir d'eau. Je continue le texte. Lui, à l'arrière, dormait la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas !» Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac « Silence ! Tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Versets 38 à 39. Épuisé par une journée d'enseignement, Jésus dormait à la poupe sur un coussin de matelot en cuir. Les disciples, pris de panique, le réveillent sans ménagement et par des cris de reproche à cause de son apparente indifférence à leur situation. Le grand calme de Jésus en plein sommeil contraste intensément avec l'affolement des disciples. « Moi, qui ai le sommeil plutôt léger, cette histoire m'épate. Comment Jésus parvenait-il à dormir en pleine tempête ? Le bruit devait être infernal avec le vent violent et la mer en furie. De plus, il devait être mouillé par les vagues et par la pluie. Quoi qu'il en soit, son repos est des plus brefs et il passe à l'action. Il dit littéralement à la mer et au vent « Tais-toi et ne parle plus ». Jésus utilise ce même verbe « Tais-toi » pour déposséder un démon de son pouvoir. Cela suggère que cette tempête avait peut-être bien une origine démoniaque. Bref, sur son ordre, le vent s'arrête immédiatement. Je continue la suite. Puis il dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous eu si peur? Vous ne croyez pas encore ?» Mais eux furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent ?» Versets 40 à 41. Jésus reprend ses disciples, il les gronde pour avoir eu peur. Même s'ils prenaient des leçons particulières de leur maître, il ne leur était pas encore venu à l'esprit que l'autorité et la puissance de Dieu étaient bel et bien présentes en Jésus. C'est ce qu'il veut dire par sa seconde question, « Ne croyez-vous pas encore ?» En calmant la tempête, Jésus assuma l'autorité que l'Éternel seul exerçait dans l'Ancien Testament. Je cite deux passages. « Oui, c'est toi seul qui maîtrises l'orgueil de la mer. Quand ses vagues se déchaînent, toi tu les apaises. Lorsque tu les as menacées, les eaux se sont enfuies au loin et se sont élancées au bruit de ton tonnerre, franchissant des montagnes, dévalant vers les plaines, jusqu'à l'endroit que tu leur avais assigné. » Fin de citation. Il y a même un passage d'un psaume de l'Ancien Testament qui décrit exactement sous forme prophétique ce que viennent de vivre les disciples. Je le cite. « Là, ils ont vu ce que fait l'Éternel et ses miracles sur la haute mer. Tantôt, ils étaient portés jusqu'au ciel, tantôt, ils retombaient dans les abîmes. Ils étaient saisis d'effroi et d'angoisse, pris de vertige, ils titubaient comme ivres. Toute leur adresse avait disparu. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il réduisit la tempête au silence et il apaisa la furie des vagues. » Fin de citation. Suite à ce miracle, les disciples sont en état de choc. Ils éprouvent la profonde crainte qu'on ressent lorsqu'on est en présence d'une puissance surnaturelle et donc qui défie toute explication. La question que se posent les disciples, qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent, montre clairement qu'ils n'ont toujours pas compris qui est véritablement Jésus. Ils vont d'ailleurs se révéler tout aussi incrédules lorsqu'ils verront un peu plus tard le Christ marcher sur les eaux. Et sur ces paroles, je termine pour aujourd'hui.